Sur PFM, c'est maintenant l'Actuality Team. Bonjour à tous, bonjour à toutes. L'Actuality Team vous retrouve enfin pour environ 40 minutes de débat sur l'agriculture et où les étudiants ont la parole et ont leurs propres idées sur l'actu. Aujourd'hui, pour le thème de la semaine qui est l'agriculture, on est avec, attention ladies and gentlemen, Elisa.
Bonjour.
Thomas, merci.
Pour Pichoun pour les intimes.
Voilà, bon. En fait j'hésitais, Pichoun ou Thomas.
Bon. On a des surnoms dans l'équipe.
Voilà, Sarah.
Salut tout le monde.
Et notre invité du jour.
Gilles.
Gilles.
Bonjour.
Bonjour.
Vous êtes agriculteur et exportateur, c'est bien ça, non?
Je suis agriculteur, j'ai 52 ans, je suis marié, j'ai 4 enfants. J'ai une particularité, j'habite à 20 km de l'exploitation. Voilà, c'est une exploitation que j'ai repris à mes parents il y a 25 ans maintenant. Et je suis essentiellement producteur de pommes de terre, de plants. Je suis aussi producteur de céréales, de légumes, de betteraves rouges, petits pois et de blé. Mais mon activité principale est le plant de pommes de terre qui aussi occupe 4 salariés.
Aujourd'hui, on va parler des crises des agriculteurs, des causes, des conséquences et des possibles solutions. Je vous propose, pour mieux comprendre le débat, qu'on fasse une petite recontextualisation.
Alors, je vais vous présenter rapidement pourquoi. Donc aujourd'hui, on a beaucoup entendu, on entend beaucoup en ce moment donc que l'agriculture en France, elle ne se porte pas très bien. Eh ben, c'est vrai, malheureusement. C'est pas non plus un cas général. Il y a quand même des agriculteurs qui vont très bien, mais pourquoi la majorité d'entre eux aujourd'hui doit mettre la clé sur la porte ou est en faillite? Eh bien, la raison principale, c'est que le coût de production est supérieur au prix de vente. Donc, ça leur coûte plus cher de produire tout ce qu'ils vont vendre que ce que ça va leur rapporter. Ce qui fait qu'au final, ils dépensent plus d'argent qu'ils n'en gagnent. Effectivement, ça peut que poser problème. Donc, pourquoi ça? Aujourd'hui, donc, on va parler aussi beaucoup de la grande distribution. Parce que la grande distribution va chercher à vendre toujours plus et moins cher, donc pour nous satisfaire, nous consommateurs. Et donc pour ça, elle va passer donc des contrats avec les agriculteurs. Mais par exemple, on a un cas qui est très présent, qui est le cas du lait. C'est que par exemple, les agriculteurs ne gagnent en moyenne que 28 centimes par litre de lait. Et ça leur coûte bien sûr beaucoup plus cher. La nourriture des vaches, pour les loger, pour s'en occuper, etc. C'est quand même beaucoup plus cher que 28 centimes par litre. Et donc c'est pour ça qu'ils perdent énormément d'argent. Alors bien sûr, l'État. L'État, quel rôle joue-t-il dans tout ça? L'État, il investit environ 30% dans les agriculteurs. Mais c'est pareil, il perd beaucoup d'argent dedans parce que les agriculteurs ne leur apporte que 8% de leur revenu. Ce qui fait que l'État dépense beaucoup d'argent dans les agriculteurs qu'ils ne regagnent pas par la suite. Une autre particularité de l'agriculture, les petites exploitations. Parce qu'aujourd'hui en France, il y a beaucoup plus de petites exploitations que d'exploitations qui sont donc plus généralisées. Ces petits agriculteurs vont s'endetter et au final être incapables de rembourser. Ils ne pourront même plus se verser de salaire. Et par exemple, avec les normes qui vont leur demander plus d'investissement, mais après, ils ne peuvent pas regagner tout leur argent.
C'est bon, merci à toi Sarah.
Merci.
Qu'est-ce
Sarah.
Qu'est-ce que ça a bossé dur aujourd'hui? D'habitude, ça dure une minute les chroniques là.
Alors là, Sarah, Sarah. Il l'avait déjà préparé.
Bah écoute.
Je peux pas le dire.
Non mais sérieusement, c'est ouais. Parce que c'est la fin d'année, c'est pour ça, vous avez plus de temps pour bosser la radio.
T'as pas le bac toi en fin d'année, je
trouve. Non, j'ai pas le bac.
Tant qu'on est en seconde. Hein.
Bon, moi je vous propose qu'on passe au débat.
Hein. Ah oui.
J'ai quelques petites questions. Première.
Moi j'aimerais intervenir avant pour faire une petite rétrospective pour expliquer là où on en est aujourd'hui par rapport à ce qui a été dit. Mais c'est peut-être
pas
dans
de problème.
Le cadre des questions.
Allez-y, de toute façon...
Allez.
Ça peut pas être pire.
On vous laisse l'antenne.
Ça peut pas être pire.
La situation aujourd'hui, je pense qu'elle mérite une petite rétrospective. Pour faire simple, l'agriculture, entre 70 et 85, a été subventionnée pour faire face aux besoins d'alimentation de la France. Nous n'étions pas suffisants auto-alimentaires en 1975. Ça fait 40 ans. D'accord ? On achetait tout. On achetait beaucoup de choses, en Argentine, en Amérique du Sud, Amérique du Nord. D'accord ? Donc on a soutenu l'agriculture pour qu'elle se développe. Puis nous sommes arrivés dans une zone de surproduction, parce qu'on l'a tellement aidée, elle s'est tellement développée qu'on a eu une forte surproduction à partir de 1985-90. Et donc on a adapté ce qu'on appelait la politique agricole commune de l'Europe. On l'a adapté pour qu'il n'y ait pas des produits excédentaires qui soient mis sur le marché, qu'on subventionne des productions françaises pour qu'elles soient mises sur un marché excédentaire et donc revendues à perte. Ça, c'était le point de départ. Et puis, l'Europe s'est organisée, plus ou moins bien, mais je pense qu'elle s'est organisée, et c'est vrai dans tous les produits. Et on a dit, il ne faut pas continuer à subventionner les productions qui sont excédentaires, il ne faut pas non plus trop subventionner les agriculteurs, mais il faut quand même les soutenir, parce qu'ils ne seront pas capables de produire sans ces subventions-là. On les a aidés pendant 30 ans, on ne va pas d'un seul coup leur dire, bah non, c'est tout, on arrête. Et ça, c'est vrai dans beaucoup de domaines de production française. Donc, on s'est dit, maintenant, il faut trouver un système. Et puis, on est surtout rentré dans les accords internationaux, les Uruguay-Round, etc., les accords de Doha, qui ont fait qu'on est entré dans un libre-échange le plus complet possible dans tous les domaines. Et ça, c'est un peu le début des difficultés en agricole. Mais c'est vrai dans d'autres domaines, hein, toujours. Donc, le fait de dire, on libéralise tout, on a fini par dire aux agriculteurs, le blé ne vous sera plus acheté 1 euro ou 100 euros à la tonne, comme c'était le cas, le blé vous sera payé le prix du marché français ou du marché mondial, de même que le lait vous sera plus payé 300 euros à la tonne ou 320 euros à la tonne, il vous sera payé un cours mondial qui est fait de la loi de l'offre et de la demande. Voilà la libéralisation de l'agriculture comme elle se fait dans tous les domaines. Alors, qu'est-ce qui s'est passé? Et ça, c'est vrai depuis 2007-2008, le fait d'entrer dans une période entièrement libérale, les agriculteurs qui avaient l'habitude d'avoir, allez, pour faire simple, 100 euros de la tonne de blé, quand ça allait vraiment bien et qu'il y en avait besoin, on nous payait 102, puis quand ça allait mal, on nous payait 95, il y avait une fluctuation de 2-3%, 5% peut-être, c'est vrai sur les denrées laitières, le beurre, etc., donc on s'était habitué, on s'est dit c'est pas un prix élevé, mais on va réduire toutes nos charges de production pour entrer dans le cadre des 100 euros et quand même gagner de l'argent. Alors voilà, ça s'est mis en place. Et voilà qu'en libéralisant, eh ben, le cours mondial, alors ça s'est conjugué avec peut-être une ou deux années de pénurie parce que c'est très influencé par les productions mondiales. S'il fait très sec en Russie, le prix du blé monte. Si le Canada a une très belle production, le prix du blé baisse, et ainsi de suite pour chaque pays, d'accord ? Et donc, ça s'est conjugué en 2007 avec une augmentation du prix du blé, et je peux vous donner un détail précis sur ce que j'ai vécu. Moi, j'avais l'habitude de fournir mon blé à un négociant, puis je savais que j'allais être payé 100 euros de la tonne. Puis un jour, il m'appelle, il dit « on est capable de faire des contrats à 120 ». 20% d'augmentation, est-ce que tu fais un contrat ? Bah, je dis non, je dis si toi tu le vends bien, tu me le payeras plus cher. Puis, c'est passé à 150, ah, 50, imaginez, 50% de plus, j'ai signé un contrat en disant à un moment donné, il faut que ça soit valorisé, c'est bien. Et puis, ça c'était au mois de mai, et puis nous sommes arrivés au moment de la moisson, on a livré du blé sur lequel on était à plus de 200 euros. Vous imaginez, vous, ce que vous touchez double d'un seul coup ? C'est très perturbant, alors c'est tant mieux dans ce sens-là. Et puis on a fini une saison avec un prix moyen qui était autour de 200-205 euros, alors qu'on l'avait produit pour faire 100. Imaginez les revenus que nous avons pu faire cette année-là. Alors ça s'est conjugué avec une moisson chez nous qui était très moyenne en rendement, donc le prix a compensé les baisses de quantité. Voilà un petit peu comment ça s'est fait. Et puis 2007, nous sommes donc, depuis cette date-là, nous sommes donc entrés dans cette période de fluctuation. Et puis on se retrouve avec des prix. 2009, on est repassé en dessous de 100 euros. Donc on a fait une très mauvaise année. Et 2010, 11, 12, les financiers qui n'ont rien à voir avec l'agriculture ont trouvé que sur les denrées agricoles, on pouvait faire de l'argent. Excusez-moi de vous le dire comme ça. Il y a eu de la spéculation financière. Plus encore que les simples cours liés à la demande et à l'offre des céréales, de lait, de blé, de l'ensemble des produits agricoles, de viande. Donc la spéculation a fait qu'on a pu vendre du blé quelquefois jusqu'à 260 euros. C'est inimaginable. Sauf que derrière, les marchands de matériel agricole, les agriculteurs qui avaient peut-être des retards d'investissement ont investi en disant bah, puisque les prix montent, on peut acheter du matériel plus performant. On a de nouvelles perspectives qui s'ouvrent. On a aussi essayé d'imaginer à un moment donné si on allait utiliser le blé pour d'autres usages, peut-être faire des matières plastiques, peut-être donc la recherche est très active là-dessus. Je vous disais, le matériel, le prix du matériel a monté, mais il y a eu spéculation aussi sur le prix des engrais, il y a eu spéculation sur le prix des produits phytopharmaceutiques, et donc nos charges naturellement ont augmenté, peut-être de 30-40%. Et puis d'un seul coup, voilà, en 2014, les spéculateurs se sont plutôt retirés en disant on a gagné ce qu'il y avait à gagner, on vend, hein, donc ça provoque la baisse. Il y a aussi plutôt augmentation des volumes produits au monde, donc on se retrouve avec une relative surproduction. Et c'est vrai dans le lait, c'est vrai dans le blé, c'est vrai sur un certain nombre de denrées. Et donc, qui dit surproduction, dit baisse des prix. Oui, mais le tracteur ou le bâtiment qu'on a fait pour les 10 ans ou 15 ans à venir, on a basé des remboursements en disant le blé, allez, on va toucher peut-être 160 euros. Quand ça valait 200, on s'est dit, on va être prudent, on va mettre 160 euros. Hein? Mais quand il descend à 140, bah, il nous manque une petite part pour rembourser. Donc, voilà pourquoi, à un moment donné, il y a un gros décalage. Et ça, c'est quelque chose que les agriculteurs n'étaient pas habitués à vivre. Puisque pendant 40 ans, 50 ans, le prix du blé, je vous disais, fluctuait de 2-3%, mais pas de 40%. Et alors, voilà un petit peu comment les choses se posent aujourd'hui.
Donc on l'a compris, l'avenir des agriculteurs est toujours incertain. Les prix des produits peuvent diminuer comme augmenter.
Oui, incertain c'est sûr. Ça, il y a moins de certitude encore aujourd'hui en agriculture. Au moins à court terme, il n'y a qu'une certitude. Pour moi, c'est un des seuls métiers qui a de l'avenir. Enfin, pas les seuls, parce qu'il y a d'autres métiers, mais c'est un métier qui aura toujours de l'avenir. Le tout, c'est d'être formé pour affronter les exigences de gestion, parce qu'il faut avoir une gestion beaucoup plus pertinente pour éviter de faire des investissements, peut-être dans des périodes où il faudrait mieux pas les faire, ou pour gérer des difficultés financières, gérer de la trésorerie. Et c'est un petit peu la difficulté qu'il y a actuellement. On entend des gens qui se plaignent, et c'est normal, parce qu'ils ont des difficultés de trésorerie. Je pense que chez un certain nombre d'éleveurs, les situations sont compliquées, mais on va avoir des périodes où les prix vont remonter, qui leur permettra de rembourser. Il y a aussi aujourd'hui des éleveurs chez qui la situation est bonne.
Mais ça, on va en revenir juste après, dans quelques minutes. Pour l'instant, je vous propose qu'on commence le débat, n'est-ce pas ? Ça fait...
Allez-y.
On a déjà pris quelques minutes de retard, hein. Ça va vite. Alors, première question. Pensez-vous que la réaction des agriculteurs est appropriée à leur situation ?
Bah quand même, ils perdent de l'argent, donc ça met un peu les boules, non ?
Ça met un peu les boules.
Thomas, analyse politique.
Voilà.
Bah, je pense, ouais, leur colère. On a vu qu'il y avait eu des manifestations il n'y a pas longtemps, où le salon de l'agriculture, on a pu voir une colère. Je pense que leur colère, elle est justifiable.
Sarah ?
Moi, je voudrais demander à notre invité, est-ce que vous avez manifesté, vous ?
Pas cette fois.
Ah.
J'ai pas manifesté cette fois parce que cette fois est plutôt liée justement à des problématiques de cours. Et là-dessus, je suis pas sûr qu'on puisse jouer. Alors, quand une manifestation vient demander à l'État français d'organiser le commerce avec la grande distribution, mais je pense qu'on va avoir l'occasion d'en reparler, oui, là, ça se comprend. Et il y a des agriculteurs qui manifestaient pour ça. En disant, ouais, mais on n'a pas une concurrence loyale entre des produits qui peuvent venir de pays d'Europe, notamment de l'Est, qui sont moins chers, que pas forcément ils ont des coûts de production moins élevés. On devrait avoir une concurrence loyale, c'est-à-dire en termes de qualité de produit, quel que soit l'endroit d'où vient le produit. Mais un produit qui est moins cher si la qualité est moindre, ben non, c'est pas... Et là-dessus, effectivement, le gouvernement peut jouer, les organisations doivent jouer là-dessus. Par contre, sur le cours, personne ne peut jouer. D'accord ?
Oui, c'est un peu les inconvénients de la mondialisation, peut-être. Oui.
Voilà. Mais mondialisation, entre guillemets, nous l'avons voulu, donc oui. Nous l'avons. Alors, est-ce qu'il faut, mais ça sera une de vos prochaines questions, est-ce qu'il faut sortir les denrées agricoles d'un système mondialisé en disant on protège nos pays ? Je laisse la question ouverte.
Pensez-vous que l'État fait assez d'efforts pour aider ses agriculteurs ? un petit tour de table.
Moi, je... Est-ce qu'il fait assez d'efforts? Il fait des efforts, c'est vrai, parce qu'il investit quand même beaucoup dans les agriculteurs et au final, c'est de l'argent qui ne lui revient pas forcément. Après, il ne faut pas oublier que les caisses ne sont pas pleines à ras-bord, hein. Et qu'il n'y a pas non plus que l'agriculture à gérer. C'est-à-dire que l'État a énormément de choses à voir derrière, les cotisations sociales, et j'en passe énormément. Ce qui fait que, est-ce qu'il fait assez d'efforts? Moi, je ne sais pas. Est-ce qu'il peut faire plus d'efforts?
Surtout qu'en ce moment, il y a d'autres problèmes avec la loi travail, donc je ne pense pas que s'accapare un peu ce sujet-là, et les agriculteurs, on en parle beaucoup moins. Donc, je suis un peu du même avis que Sarah, en fait.
L'État fait des efforts, par exemple, notamment au niveau fiscal. Hein, il fait des aménagements fiscaux. Je ne sais pas si vous avez entendu parler de la loi Macron dans laquelle on peut provoquer un suramortissement sur du matériel neuf. Alors ça a un intérêt, ça permet d'amortir, ça crée des charges fiscales, ce qui permet de réduire le résultat et donc réduire l'imposition. À ce niveau-là, il peut le faire. Voilà. Là où l'État doit être présent, c'est savoir comment il veut que l'on vive la relation entre le producteur et la mise en marché. Là, c'est l'État qui doit peut-être intervenir pour que cette organisation-là soit claire, précise, avec des règles et des normes, et que de chaque côté, on puisse gagner de l'argent. D'accord ? Voilà où il doit intervenir. Après, vous savez, les montants financiers, quelquefois, seraient tellement importants, je ne vais pas dire qu'il faudrait plus d'argent de la part de l'État, c'est pas ça qu'on demande. Si l'agriculteur, pour vivre de sa production, il n'a pas besoin qu'on l'aide, hein. Et il y a quand même une grosse majorité des agriculteurs qui vivent de leur production. Donc il faut aider dans l'organisation du commerce ceux qui doivent vivre de leur production. C'est surtout à ce niveau-là.
Selon vous, donc, quel avenir ont les agriculteurs dans la société?
Je pense qu'ils ont encore un avenir assez important. On a encore besoin d'eux, bien sûr. Tout à l'heure, monsieur l'a dit, les agriculteurs ont encore un avenir. Donc je pense qu'on aura toujours besoin d'eux, mais qu'il faudrait essayer de changer les choses, certaines manières de faire.
Évidemment, enfin, l'alimentation c'est quand même la chose la plus indispensable aujourd'hui. Tout le monde a besoin de se nourrir. Donc les agriculteurs, c'est ceux qui vont derrière nous permettre de manger. Donc évidemment qu'ils sont indispensables et qu'ils auront toujours de l'avenir. Après, bah, moi je rejoins Lisa, c'est la manière de gérer tout ce marché qui faudrait peut-être revoir.
Thomas, je pense qu'on peut faire...
Les agriculteurs vont pas disparaître, c'est comme tout le monde a dit, c'est indispensable quoi. Enfin...
Thomas est très fatigué aujourd'hui.
Ouais, c'est indispensable. Après, je sais pas, est-ce qu'il y a moyen de vous remplacer? Enfin, c'est pas possible quoi.
Ils peuvent disparaître. Hein.
Ah bon,
on peut très bien imaginer que des grosses entreprises prennent le pouvoir sur l'agriculture et achètent des surfaces énormes, fassent produire par des gens qui seront salariés d'entreprise, mais qui ne seront plus des chefs d'exploitation. Parce qu'on a, nous, cette particularité, quelle que soit la taille de notre entreprise, on est entièrement libre de choisir ce qu'on peut faire et de décider. Et ça, c'est essentiel dans l'agriculture. Si un jour, je devais produire, moi, pour le compte d'une grande entreprise, j'arrête tout de suite. Hein.
Et est-ce que vous pensez que... Qu'est-ce que vous pensez qui est le mieux? Est-ce que vous pensez que c'est avoir plutôt des agriculteurs ou une grande entreprise?
Je pense que la diversité est très importante, là comme dans tous les domaines. Il faut qu'il y ait des grosses exploitations capables de produire des céréales que l'on va exporter, parce que par exemple, l'Algérie est un de nos premiers clients en céréales, et il faut bien qu'il y ait des grosses exploitations céréalières capables de produire ça. Autrement, les pays acheteurs iront l'acheter dans d'autres pays, et chez nous, on pourra peut-être laisser les terres en friche. Le pire serait d'en arriver là. Donc il faut des grosses exploitations qui soient efficaces, rentables. Quand je dis grosses exploitations, c'est à la mesure de chaque région. Et après, il faut aussi des productions locales, il faut des productions de fruits et légumes de proximité. On a la chance d'avoir un territoire qui permet toutes les productions possibles depuis le sud de la France jusqu'au nord. C'est essentiel de pouvoir maintenir toutes ces productions.
Ok, alors je vous propose qu'on marque une toute petite pause, une courte pause, parce qu'on est vachement en retard. Hein. Donc on va changer d'équipe, mais ne quittez surtout pas, parce que le meilleur du débat est à venir avec l'Actuality Team. Allez, à tout de suite sur PFM, maintenant c'est Dr Dre.
C'était Yo, Snoop Dogg and D.I. Guess who's back? Still doing that shit, Andre?
Oh, for sure.
Yeah.
Check me out. It's still Dre Day. AK. Though I've grown a lot, can't keep it home a lot. Cause when I frequent the spots that I'm known to rock, you hear the bass from the truck when I'm on the block. Ladies, they pay homage, but haters say Dre fell off. How? My last album was The Chronic. They wanna know if he still got it. They say rap's changed. They wanna know how I feel about
it. You ain't up on pain.
Dr. Dre is the name. I'm ahead of my game. Still puffin' my leaf, still with the beats. Still not loving police. Still rock my khakis with a cuff and a crease. Still got love for the streets, reppin' 213. Still the beats bang, still doing my thing. Since I left, ain't too much change.
Still, I'm representing for them gangsters all across the world.
Still,
hitting them corners and them lolos, girl.
Still, taking my time to perfect the beat. And I still got love for the streets, it's the D.R.E.
I'm representing for them gangsters all across the world.
Still,
hitting them corners and them lolos, girl.
Still, taking my time to perfect the beat. And I still got love for the streets, it's the D.R.E. Since the last time you heard from me, I lost some friends. Well, hell, me and Snoop, we dipping again. Kept my ear to the streets, signed Eminem. He's triple platinum, doing 50 a week. Still, I stay close to the heat. And even when I was close to defeat, I rose to my feet. My life's like a soundtrack, I wrote to.
Vous êtes toujours sur PFM, c'était Dr. Dre. Et vous écoutez bien votre émission préférée, l'Actualitime. Alors pour ceux qui nous rejoignent, le sujet de débat de la semaine, c'est l'agriculture. Et chose promise, chose due, on a changé de plateau. Et oui, nous sommes avec Sarah.
Hello.
Clémence.
Bonjour.
Sarah, encore.
Toujours moi.
Et notre invité du jour.
Oui, rebonjour à tous.
Deuxième partie, est-ce que vous ou vous avez mangé déjà bio?
Je crois qu'on a un micro-trottoir à passer avant, non? On en a fait un avec Elisa, alors pourquoi pas le passer?
Eh bah écoute, allons-y, soyons fous.
Alors bonjour, faites-vous attention à manger français.
Bah je privilégie, enfin c'est bien quand c'est français, mais sinon en général, bah si c'est pas français, je vais l'acheter quand même, ça pose pas de problème.
Français, varié?
Non, pas particulièrement, non.
Oui, un peu, surtout manger local, plutôt que français, mais...
Que pensez-vous des grandes distributions?
Ce sont des menteurs, des tricheurs et des gaspilleurs.
C'est de plus en plus difficile de trouver des produits de qualité dans les grandes distributions. Généralement, je suis un peu dégoûtée par certains produits que du coup j'évite de manger parce que je sais que je serais déçue si j'achète en grande distribution.
Pas grand chose, bah, ça sert quand même à manger. Hein. Il y a des choses qu'on ne trouve pas forcément au marché ou à l'épicerie du coin, donc il faut bien aller aux grandes surfaces quoi, de temps en temps.
Pensez-vous que la mondialisation tue le marché français au niveau de l'alimentation?
C'est probable. C'est vrai que c'est bien de consommer français, mais après, quand on n'a pas le choix, enfin, que ça ne vienne pas de France, c'est pas un problème. Mais c'est sûr que peut-être que ça réduit la consommation de produits. Enfin, je ne sais pas. Je m'y connais pas vraiment à ce niveau-là, mais bon.
Je pense que ce serait un peu... un raccourci de dire ça, mais je pense qu'il y aurait des moyens pour permettre aux consommateurs d'être mieux avertis des produits qu'ils mangent, même s'ils arrivent de l'autre bout du monde.
Je pense que oui, ça tue un peu tout ce qui est commerce local, les marchés, les petits producteurs, etc. Et que ça incite justement à aller en grande surface, à acheter les produits moins chers qui viennent d'ailleurs. Voilà.
Et récemment, il y a une association qui a publié certaines vidéos montrant la maltraitance des animaux. Donc cette fois-ci, c'est au niveau des poulets. Est-ce que cela vous touche?
Ah bah oui, bien sûr, bah, je consomme de la viande, mais je réfléchis pas d'où ça vient, parce que je sais que sinon ça va vraiment me dégoûter. Du coup, oui, effectivement, ça me touche beaucoup la maltraitance des animaux, que ce soit à l'abattoir ou en général.
Il n'y a pas que les poulets, donc tout me touche.
Bah, c'est vrai qu'on est à nouveau très mal, on a très peu d'informations sur ce qu'on mange et ce qu'il y a dans notre assiette. Et c'est vrai que le consommateur est partagé entre le souci de faire attention à son porte-monnaie et le fait de bien manger.
Ah, je suis plutôt contre, après je mange de la viande, donc on essaye de faire attention. Et puis au niveau des œufs, je prends des œufs de plein air bio en général, donc voilà, j'essaye de faire attention. Mais bon, on ne sait jamais trop la provenance des animaux, donc on ne sait pas trop ce qui se passe derrière.
Ok, alors c'était le micro-trottoir de Sarouille et de Elisa. On va en reparler après, mais tout de suite, je crois que Clémence nous a préparé une petite surprise, n'est-ce pas?
Oui, donc je vous ai fait l'histoire du bio en France. Donc depuis 1995, au départ, il n'y avait zéro exploitation au bio. Et maintenant, en 2015,
il y en a 30 000. Et environ 13 000 distributeurs importateurs. Donc 76% des produits bio consommés en France viennent de France. Donc c'est bien, c'est bio et en plus local. Donc j'ai regardé sur une petite carte de France, la plupart des personnes qui produisent du bio sont plutôt dans le sud-est et le moins, bah c'est dans le nord. Donc c'est nous, mes chers amis, il va falloir qu'on se rattrape. Environ 7% de l'emploi agricole fait partie du bio. Il y a 1,12 million d'hectares en 2014, donc qui fait une hausse de 5,4% depuis 2013 donc d'agriculture bio. Donc c'est bien, nous sommes en amélioration. C'est un marché de 5 milliards d'euros en 2014.
Donc, je vous propose de passer au débat. Alors, première question, celle que j'avais posée juste avant le micro-trottoir. Est-ce que vous avez, vous mangez bio ?
Alors moi, oui, franchement, ma mère, elle adore ça. Parce que, bah, elle fait attention à notre santé et avec tous les problèmes de cancer maintenant, c'est vrai que ma mère, c'est le premier truc qu'elle fait, elle achète toujours bio parce que c'est mieux. Et en fait, c'est vrai que c'est plus cher, mais je suis quand même d'accord avec elle. C'est mieux parce que c'est un respect de l'environnement et c'est le respect de notre corps en même temps.
Moi, personnellement, quand j'étais petite, on mangeait tout en bio parce que dans mon village, ma petite ville, disons plutôt, il y a une AMAP. Et en fait, l'AMAP, c'est un agriculteur qui ramène ses produits, etc. Et qui les... pas vraiment qui les vend, mais disons qu'on fait partie d'une sorte d'association. Et l'agriculteur nous donne ses produits, etc. Et on mange local et bio.
J'espère qu'il vous les vend.
Ben, en fait, on a une charge à payer, je crois, par an, quelque chose comme ça, pour l'aider, lui, à s'en sortir quand il fait ses récoltes et tout.
Alors, tu vois le problème dans ce que tu exprimes. La charge à payer, c'est pour l'aider, lui. Mm-hmm. Il va falloir changer votre regard. Il a besoin de vendre ses produits pour vivre de son métier. Il n'est pas là pour percevoir une aumône.
D'accord ? Non, mais non.
Le producteur
mais
bio.
Je m'excuse, c'est une nuance.
Mais que les mots soient précis parce qu'ils sont trompeurs.
Oui. Donc du coup, je disais quand j'étais petite, oui, beaucoup. Mais maintenant, le bio, ça coûte extrêmement cher. Enfin, pas extrêmement cher, mais disons que quand on n'a pas les moyens, manger bio, ça devient compliqué. Manger local, pas forcément, parce que ça dépend des produits. Par exemple, les fruits et légumes, on peut les avoir sur le marché, c'est des produits locaux. Mais il y a certains produits comme la viande... aller chez le boucher tous les jours, je sais que dans ma ville, le boucher, il est cher. Et donc, du coup, prendre de la bonne viande à chaque fois, ça revient très cher. Donc, manger bio local, oui, mais il y a certaines contraintes, quoi.
Moi, je mange bio aussi. À vrai dire, chez nous, on mange que ça et on mange pratiquement pas de viande. Les seules viandes qu'on mange, on les achète certes plus cher, mais de toute façon, moi, je pense qu'on mange trop de viande en moyenne. Et je pense qu'on y reviendra après, avec donc le projet After. Et du coup, nous, moi, je dois manger de la viande tous les deux jours environ. Et donc, c'est que de la bonne viande au moins. Et je suis fière de le dire parce que du coup, je me sens pas responsable de toutes ces bêtes qui derrière sont maltraitées justement pour nous nourrir.
C'est un raccourci un peu rapide parce que dans la viande qui est produite de manière classique, il y a énormément de bonne viande.
Ouais, ça dépend.
Et beaucoup de viande produite dans des élevages traditionnels sont faites avec des règles de bien-être pour les animaux et autres, qui sont très respectueuses et du consommateur et de l'environnement. Alors effectivement, il y a quelques dérapages que l'on souligne, notamment dans les médias, mais ils sont vraiment marginaux.
Oui, le problème, c'est la ferme des 1000 vaches et l'élevage intensif.
Alors, la ferme des 1000 vaches est encore un raccourci médiatique, mais il n'y avait pas que des mauvaises choses dans cette affaire-là. Mais c'est un autre sujet.
Donc,
juste.
D'accord.
Juste la mondialisation. Pour revenir un petit peu, faire un petit point sur la mondialisation. Est-ce qu'il tue le bio ? Vous avez entendu parler des accords du traité transatlantique qui va être signé. Parce qu'il le sera. Il va mettre 3 ans ou 5 ans, mais il sera signé. Vous savez que dans l'accord de. Vous le savez pas, mais par exemple, vous mangez du maroilles. Vous savez où est produit le maroilles ?
À Maroilles,
exactement. Donc, le sud du département du Nord, d'accord, puisque vous parliez du sud tout à l'heure. Le sud du département du Nord, sur une appellation, un petit territoire qui regroupe 4-5 villages, où on produit du maroilles. Eh bien, les Canadiens, l'année prochaine ou dans 2 ans, pourront vous vendre du maroilles, marqué maroilles, avec les accords de traité transatlantique, d'accord. Et il sera peut-être 20 centimes ou 30 centimes moins cher que le maroilles fait à maroilles avec toutes les règles qu'il respecte. Alors, la mondialisation, oui, mais c'est à vous de choisir ce que vous aurez envie d'acheter. Est-ce que vous achetez le maroilles au prix qu'il est aujourd'hui en payant le producteur et qui gagne sa vie, ou est-ce que vous allez acheter du maroilles canadien ou d'un autre pays, d'accord ? Voilà, je vous soulève la question, mais ça sera à vous de choisir, parce que vous l'avez.
Le problème, c'est qu'on faut qu'on puisse savoir. Comment on pourrait savoir ?
Ça sera marqué dessus. Ah ouais. Ça sera marqué
dessus. Maroilles de Canada, ok.
Mais, et oui. Donc, voilà. Et tous les produits agricoles seront à ce régime-là.
Alors justement, pensez-vous qu'il faudra accorder une place plus importante au bio sur le marché français ?
Totalement. Enfin, après, le problème, c'est qu'il ne faut pas que ça devienne un business et que du coup, on dise « Oh, c'est bio », et en fait, ça ne l'est pas. Et c'est juste les gens qui disent ça pour se faire du fric.
Non. Mais non, si c'est marqué bio, c'est contre les bio.
Mais franchement, il y a certaines dérives. Enfin, je veux dire, j'ai déjà vu des reportages là-dessus. Il y a certaines dérives... C'est pas facile de savoir. Enfin, je veux dire, alors que moi, je suis pour, mais je sais qu'il y a beaucoup de gens qui me sortent cet argument-là. On dit que c'est bio, mais ça l'est pas vraiment.
C'est un mauvais argument. Ce qui est contrôlé bio et marqué bio, c'est bio. Alors après, il y a ce qu'il y a derrière, bio ou pas. Est-ce que tout le bio est bon ? J'en suis pas sûr. Est-ce qu'on saura tout faire en bio ? Je suis pas sûr. Vous mangez peut-être des frites, des chips ou des... Ça vous arrive, sans doute, des chips, des frites ?
Ouais,
puisque vous parliez du Nord, je ne suis pas sûr. À ce moment-là, les années comme cette année, aujourd'hui déjà, sur les pommes de terre, il y a déjà du mildiou. C'est peut-être une... Je m'excuse, je parle de ce que je connais, puisque je suis producteur de pommes de terre. Le mildiou, vous savez peut-être ce que c'est.
C'est une maladie de la pomme de terre. Voilà.
C'est une maladie qui fait d'abord pourrir le feuillage, puis pourrir les pommes de terre. Et bien, une année comme cette année, si on ne cultive que bio, on n'a pas beaucoup de moyens de lutte contre le mildiou. Ça veut dire qu'il faut vous dépêcher d'aller manger les quelques pommes de terre que vous allez avoir dans votre jardin. Et puis, au 14 juillet, terminé, il n'y en aura plus puisqu'elles vont pourrir du mildiou. D'accord ? Ça veut dire que tout le reste de l'année, le Nord, c'est quand même 5 millions de tonnes de pommes de terre de consommation pour faire des frites et des chips. Ça veut dire qu'il n'y en aura plus. Alors, est-ce que pendant une année, vous êtes prêt à attendre qu'on mange ni frites ni chips ? C'est une question. 5 millions de tonnes, il faut savoir ce qu'on va manger en échange. Donc, pour l'instant, on n'est pas capable de faire tout en bio. Mais je vous assure qu'on essaye de faire pour que ce qui n'est pas bio, ça soit produit avec des normes, avec des qualités, avec des... Et vous ne l'avez pas évoqué, mais je tiens à le dire quand même, dans nos méthodes de production traditionnelles, puisque moi je suis en classique, conventionnel, comme on va le dire, on nous a supprimé réglementairement, et puis c'est vrai, entre 70 et 75% des produits phytopharmaceutiques que nous utilisions depuis 15 ans. D'accord ? Tous les plus toxiques ont été retirés. Alors, il y en a encore qui sont sans doute pas bons. Mais vous savez comme moi que votre voiture, elle pollue. Est-ce que demain, vous êtes tous prêts à aller à vélo et à pied et à limiter vos déplacements ?
Bah non, on le fait déjà. En fait, en tant que jeune, on n'a pas le permis. Du coup, par exemple, pour ceux qui habitent sur Arras, on ne prend jamais le bus. Ou on se balade tout le temps à pied, et là on vient à pied, on repart à pied, du bahut...
Non, tu fais ça,
c'est parce que tu fais ça. Ah non, mais...
Enfin, je pense que le problème, c'est pas de pas du tout polluer ou pas, mais c'est surtout qu'on aimerait bien savoir ce qu'il y a eu sur notre patate, ce qu'il y a eu sur ce qu'on mange.
En fait... Ah, ça, il vaut mieux pas que tu le saches.
Ah ouais, mais c'est vrai que ça fait peur, quoi. Moi, non, des fois, pourvu... à côté de chez moi, il y a des champs, je me balade. Quand on voit, quand on se fait arroser avec les deux grands bras, là, avec tous leurs pesticides...
Tel qu'on est aujourd'hui, si on devait produire que bio... Il n'y a que 15 à 20% de la population qui mangerait.
C'est vrai.
D'accord ? Mmh. Les autres, on les laisse mourir de faim. C'est pas grave, tu vas me dire, on est tellement nombreux que s'il manque... Non mais, on en est à ce point-là. Est-ce qu'on peut raisonner comme ça ? Ouais. Je sais pas. Après, que l'on s'emploie à chercher tout, et ça, on est au-devant de la recherche. Attends, pendant 50 ans, on a cultivé avec des produits phytopharmaceutiques. On nous a dit, c'est comme ça qu'il faut le faire. On sait maintenant, et vous savez, parce que vous avez 16 ans, que c'est sans doute, tout n'est pas bon, et c'est clair. Mais il fallait bien qu'on vous nourrisse.
Ouais, c'est vrai.
Il fallait qu'on se nourrisse. Donc, on a progressé. Maintenant, on le sait, moi le premier, je réduis toutes les doses que je peux. D'abord, pour une question de pognon. Si je dépense 50 000 euros aujourd'hui de produits phytopharmaceutiques, si pour l'année prochaine, j'arrive à n'en mettre que 25 000, les 25 autres 1000 sont dans ma poche, sans tout en... réduisant peut-être de 5% ma production, il va me rester un différentiel positif. Je suis premier à le faire. Puis j'ai 50 ans, je vois disparaître des copains et des amis aussi, peut-être de cancer. Alors est-ce que c'est les produits agricoles ou est-ce que c'est les gaz d'échappement ou est-ce que c'est peut-être les cochonneries qu'il y a dans le dentifrice, hein, j'en sais rien.
Non,
ça, Il faut, on peut, non mais on peut oui. tout oui, remettre en cause.
Oui, voilà, le danger en fait il est partout.
Bah, parce que... Non, le danger est pas partout. Le danger est pas partout. Mais ce qu'on fait, bah, il faut effectivement l'adapter avec des nouvelles choses et ça c'est vrai dans tous les domaines quoi.
Ok, d'accord, alors je vous propose de faire une courte pause parce qu'on n'a toujours pas rattrapé notre retard.
On le rattrapera pas.
vous êtes donc sur PFM et vous écoutez bien votre émission préférée en compagnie de l'Actuality Team. Et tout de suite, on marque une très courte pause musicale. On va changer d'équipe. Mais ne quittez pas, le meilleur de débat est à venir avec l'Actuality Team. A tout de suite sur PFM 99. Maintenant, c'est I'm Not Rich. You know I live like a millionaire. You know I live like I ain't got a care in the world. But I do. I care about me and you. I care about me and you. I care about right and wrong. Je ne suis pas riche, mais l'amour fait de moi un millionnaire. Le soleil me suffit comme lumière. Je laisse ses fous se faire la guerre. Moi je cultive le love, ouais je m'en fous. Je suis un habitant de la terre, un passager, un simple locataire. L'amour m'est vital, il m'est nécessaire. La vraie richesse, c'est le love. Me used to know a man on a skyscraper. Market crash, money turned to vapor. Better know what life is really worth. More precious than diamonds from the earth. I been no set of youths of the future. So not encourage them to turn in a gangster. Got to shower them with love. Vous êtes sur PFM 99.9 et c'était I'm Not Rich et vous écoutez bien votre émission préférée, l'Actuality Team. Pour ceux qui nous rejoignent, le sujet de la semaine c'est l'agriculture et le plateau a été changé. On est avec Sarouille.
Hello.
Thomas. Oh là là, je mélange tout.
Ça fait plaisir.
Alexis. Loïc.
Salut.
Et toujours notre invité.
Gilles.
Alors, je vous propose qu'on commence tout de suite le débat. Mais avant, Alexis, t'as une petite surprise.
C'est pas une surprise, mais oui. Oui, oui, bref. Quand même.
Allez, vas-y.
Voilà, donc dans cette troisième partie, on va vous parler de la solution after donc pour l'agriculture. Donc qui veut répondre affirmativement à la question, donc disposerons-nous des surfaces nécessaires pour nourrir la France en 2050? Et donc là, il y a différentes idées proposées par cette solution. Donc déjà, le rééquilibrage des échanges internationaux. Donc moins d'importations, moins d'exportations, donc pour que la France soit plus indépendante. Et la relocalisation de certaines productions, avec la limitation des pertes de terres agricoles et la préservation des espaces naturels, avec aussi la restauration des écosystèmes. Ils veulent aussi réduire les émissions de gaz à effet de serre d'agriculture par un facteur 2, donc diviser par 2 les émissions, par exemple en récupérant les gaz rejetés par le bétail pour faire du biogaz. Aussi, avoir une plus grande production d'énergie renouvelable. Et la plus grande idée, c'était d'avoir un meilleur équilibre nutritionnel, donc aussi pour la lutte contre la malbouffe et la surconsommation. Donc qui propose une baisse de 90% de la consommation de poissons et de crustacés, de manger deux fois moins de viande, parce que dans France, on est des gros viandards.
Pas moyen.
Alors, donc, tu me coupes pas, merci. Donc, de manger deux fois moins de viande, deux fois plus de légumineux, donc comme les pois chiches et les lentilles. Donc pour changer les protéines animales en protéines végétales, je connais quelqu'un qui ça va pas plaire. Et aussi l'augmentation de la consommation de légumes et de fruits locaux. Voilà,
donc,
c'était les idées de
Alter. Tu pensais à Loïc, bien sûr, qui est un gros viandard. Ouais.
Vive le chou.
Ouais, mais choucroute alors.
Donc c'était.
Et la viande.
Bah, voilà.
Vous permettez, je parlais là. Donc c'était la méthode after. Est-ce que vous pensez qu'elle est réalisable, cette méthode?
Bah oui, mais sur un long terme, puisque enfin, prenons par exemple l'exemple de Loïc qui a coupé Alexis en pleine présentation.
Un méchant Loïc.
Pour certaines personnes,
je te prends dehors.
Non, je le prends pas dehors, tu me laisses finir de parler, merci. Pour certaines personnes, arrêter de manger de la viande ou même ralentir leur consommation, c'est déjà compliqué puisqu'ils adorent ça et ils voient pas quel est l'intérêt de tout ça. Du coup, je pense que c'est réalisable, mais vraiment sur le long terme, même si ça commence à se mettre en place, tout ça.
La recherche avance très vite parce qu'on l'a initié. Hein, donc il y a beaucoup de choses. Tu parlais de récupération du biogaz. Oui, effectivement, on récupère le méthane pour injecter dans des turbines. Alors, soit directement, on injecte le méthane dans les conduites, soit on fait tourner des turbines, on produit de l'énergie électrique. D'accord ? Bon, ça c'est bien, on sait le faire aujourd'hui parce que les choses ont changé et qu'on a de la technique et qu'on a cherché, et voilà, des choses nouvelles. Il y avait une question tout à l'heure. Dans le Nord, on est en retard. Ben oui, on a un souci, c'est que dans le Sud, il pleut 300 mm ou 400, et puis on essaye d'arroser pour essayer de faire produire ce qu'on a envie de produire, notamment des melons, des courgettes ou des légumes comme ça. Chez nous, ici à Arras, il en tombe 750, et puis sur d'autres secteurs, si on monte sur la Normandie, il tombe 1000 mm par an. On a forcément beaucoup plus de maladies, beaucoup plus de parasitisme, donc pour lesquels, pour l'instant, on ne sait pas encore forcément lutter. Mais il y a énormément de recherches qui travaillent sur la stimulation des défenses naturelles des plantes, donc pour limiter les produits. Il y a énormément de recherches maintenant qui travaillent sur des plantes naturellement résistantes à certaines maladies, à certains parasites, parce qu'on a fort avancé avec tout ce qui est génétique, etc. Donc on sait faire des choses qu'on ne savait pas il y a 4, 5 ou 10 ans. Donc l'avenir, bien sûr, est ouvert à des choses nouvelles, mais l'avenir s'est toujours construit avec ce qu'on savait du passé.
Donc la méthode after, c'était de manger deux fois moins de viande. Ouais. Vous serez prêt à l'appliquer ?
Bah, pas trop. Pas vraiment, non. Manger de la viande... En général, les Français mangent beaucoup de viande, hein. Je ne vais pas dire le contraire parce que j'en mange aussi pas mal. Et non, franchement, manger deux fois moins de viande, je me vois pas le faire.
Ça te dit pas. Et ça, oui.
Ouais, si, moi aussi. Enfin, déjà, à la maison, on commence, parce que comme je disais tout à l'heure, la viande, c'est cher, et donc du coup, ça limite un peu le budget au niveau de ça. Manger deux fois moins de viande, enfin, moi, je me vois le faire. Mais je sais qu'il y a certaines personnes, par exemple, ma petite sœur, elle se voit pas manger moins de viande. C'est clair, net et précis, ça, c'est impossible pour elle.
Un hamburger sans le steak, il va rester que la salade. Peut-être la tomate en été, oh, non, ça ne va pas être
fait,
la joie. Hein.
Elle mange pas de tomate, pas de salade. Du coup, l'hamburger sans la viande, ça reste le pain. C'est tout.
Les graines dessus.
Voilà.
Après, manger moins, oui, mais manger deux fois moins, c'est quand même un peu compliqué. Après, si on enlève un petit peu par repas, pourquoi pas. Enfin, je suis un gros consommateur de viande, enfin, j'aime bien ça, mais après, si on enlève un petit peu... Si après on sait que c'est parce que après si on sait pourquoi on le fait, pourquoi on le ferait pas?
Et quel temps passez-vous dans une cuisine à cuisiner? Bon, à 16 ans peut-être pas encore beaucoup, mais est-ce que vous êtes prêt à repasser 3 quarts d'heure à 1 heure le soir pour cuire des légumes à la vapeur, les aménager à la vapeur?
Ah non, mais là en fait vous parlez à quelqu'un.
Si tu manges moins de viande, tu vas manger moins de beurre.
Ouais, mais on peut
moins de crème fraîche.
Parce que on est obligé de manger que des légumes, qu'on doit faire ça que à la vapeur, sinon après autant se suicider.
Ah bah, si on a le choix entre le suicide et les légumes à la vapeur, j'aime quand même autant les légumes à la vapeur.
Non, mais on peut les arranger un petit peu les légumes parce qu'on les fait à la vapeur. On a un petit peu d'épices, tout ça, pas forcément à la vapeur.
Allez, on te mettra de l'huile d'olive, c'est bon pour la santé.
Oh putain, je suis content. Après la manif à poil, la manif pour l'huile d'olive.
Exactement, c'était le mot de la fin d'ailleurs, parce que les amis, j'ai une confession à vous faire. On est grave en retard et il est l'heure de rendre l'antenne, voilà. Rappel, nos émissions sont retransmises sur le site de PFM dans la rubrique Actualiteam. Et vous pouvez proposer de nouveaux thèmes d'actualité sur notre page Facebook, sur Actualiteam. Ça s'écrit comme ça se dit. Et, ah non, en anglais, j'ai oublié, c'est en anglais.
Quant à nous... Alors en anglais, Actuali s'écrit avec... Ah, ça s'écrit avec un Y à la fin.
Bah écoute, voilà.
Donc, non.
Ça s'écrit comme ça se dit, mais en franglais.
J'étais en... Voilà. Exactement. J'étais en train de dire au revoir, là. Vous pouvez pas me laisser tranquille.
Dis au revoir, si tu veux.
Non, mais dis donc.
À parler une enfant.
Bon, si un jour vous avez un peu de temps, je vous invite sur mon exploitation à venir voir un peu ce qui est déjà fait.
Pas de problème, on mettra les photos sur notre page Facebook.
Et manger des légumes vapeur.
Voilà, quant à nous, on va se quitter sur notre générique qui déchire. Et on se donne rendez-vous la semaine prochaine pour une nouvelle émission sur la loi travail normalement. Mais d'ici là, portez-vous bien. C'était toute l'équipe de l'Actuality Team sur PFM.